RFI 18h en temps universel, 20h ici à Paris, 13h à Lima, 11h à Los Angeles.
Édition spéciale sur RFI. Guillaume Nodin.
Édition spéciale, attribution des Jeux Olympiques d'été 2024 et 2028 à Paris et Los Angeles. Il n'y avait plus de suspense depuis longtemps. Il s'agissait d'officialiser un accord tripartite entre le Comité International Olympique, Paris et Los Angeles. C'est fait. Thomas Barr, le président du Comité International Olympique, l'a annoncé il y a quelques instants.
May I ask, je demande à tous les membres de l'IOC qui sont en faveur de cet accord de lever le bras.
Ladies and gentlemen,
mesdames et messieurs, j'ai le grand honneur d'annoncer que le Comité olympique international a simultanément élu la ville d'accueil des Jeux des 33e Olympiades et la ville qui accueillera les Olympiades 34 en 2028. Paris en 1924, Los Angeles en 2028.
Bon, donc c'est bien Paris 2024. Les Jeux étaient à Paris en 1924. 100 ans plus tard, ils reviennent à Paris. Cette fois, c'est officiel. Christophe Diremzian, vous êtes notre envoyé spécial à Lima. Bonjour, bonjour pour vous, bonsoir
bonjour,
pour nous.
Bonjour, bonsoir Guillaume, absolument, c'est comme vous voulez.
Oui, 100 ans plus tard, et après un certain nombre de déconvenues, les Jeux Olympiques d'été reviennent à Paris. C'est la joie dans le camp français, dans la délégation.
Ah bah vous l'imaginez, effectivement, tout s'est passé exactement. L'histoire leur tiendra peut-être à 17h47, temps universel, 12h47 ici à Lima, lorsque, dans un premier temps, Thomas Barr, le président du CIO, a invité Anne Hidalgo, la maire de Paris, et Eric Garcetti, le maire de Los Angeles, à venir à ses côtés pour montrer tout simplement le panneau représentant les noms des villes respectives, puisque vous l'avez compris, il n'y a pas eu de vote, tout était acquis d'avance. Il a simplement demandé, Thomas Barr, vous l'avez entendu à l'instant, aux membres du CIO d'approuver le principe de la double attribution des Jeux 2024 à Paris et de Los Angeles en 2028. Vous l'imaginez, l'explosion de joie, plus peut-être un petit peu plus du côté de Paris, la forte émotion du côté de Paris et de Tony Estanguet, le co-président de ce comité de candidature, désormais comité d'organisation. Ils se sont étreints évidemment toute l'équipe présente sur la scène pour saluer cette attribution, un petit peu plus de retenue du côté de Los Angeles, mais bien entendu la satisfaction d'obtenir ce qu'ils voulaient. Dans la foulée, la partie administrative a été assez rapidement réglée, puisque les contrats de ville haute, vous savez, ces imposants documents qui vont sceller les relations entre le CIO et les deux villes durant les 7 et les 11 ans à venir, ont été signés dans la foulée par Thomas Barr, sous les yeux également de notre invité, notre grand témoin de cette soirée en France, Kevin Bernardi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant en spécialiste olympique et rédacteur du site internet Sport et Société. Vous avez évidemment une belle expertise, une belle analyse de tout ce qui s'est passé. D'abord, un petit mot évidemment sur votre sentiment là, sur ce qui s'est passé pour Paris-Los Angeles. Grosse émotion évidemment, on a vu notamment Tony Estanguet brandir les points vraiment comme si c'était l'œuvre de sa vie.
Oui, c'est vrai que toutes les interventions que ce soit de Paris ou de Los Angeles ont été particulièrement émouvantes. On ressentait l'émotion de chacun des speakers dans les deux camps qui ont à plusieurs reprises d'ailleurs évoqué le partenariat, évoqué l'entente qu'il va y avoir maintenant pour les prochaines années, les 11 prochaines années du coup. Donc c'est vrai que c'était un moment assez intéressant, et surtout l'aboutissement d'une campagne qui a duré in fine plus de 2 ans pour chacune des deux villes candidates.
Campagne très originale, évidemment inédite par son déroulement, pas de vote solennel, pas de compétition in fine. Comment est-ce qu'on peut appeler ça, une espèce de pragmatisme qui a prévalu du côté du CIO pour faire en sorte que chacun soit gagnant, et surtout notamment le CIO, puisqu'on rappelle c'est un accord tripartite, comme on dit, gagnant, gagnant, gagnant pour toutes les parties.
Tout à fait, surtout pour le CIO, parce que c'est vrai que le CIO avait conscience depuis déjà quelques éditions olympiques du manque de candidature, du retrait de candidature, et du coup là on s'est retrouvé avec au départ 5 villes candidates quand même, qui n'étaient pas des petites prétendantes, et on se retrouve au final avec 2 villes qui certes ont une énorme expérience, 3 Olympiades chacune désormais, mais malgré tout, c'est vrai que le CIO se retrouvait face à un dilemme, soit maintenir la possibilité d'un seul vote, autrement dit, la ville perdante ne serait certainement pas représentée pour les prochaines années. Finalement, il a choisi une option intermédiaire qui est inédite depuis la désignation d'ailleurs de Paris et Los Angeles au début du XXe siècle, qui avait là aussi eu un système de double attribution qui avait permis à Paris d'avoir 24, à Los Angeles d'avoir 32. Donc voilà, le CIO est revenu un petit peu sur ses fondamentaux, on va dire, pour adopter cette nouvelle stratégie et entrer dans cette nouvelle ère.
Christophe, on devrait faire ça plus souvent en fait, hein, de s'arranger avec directement avec Los Angeles, d'après ce que vient de dire Kevin Bernardi. On aurait dû y repenser un petit peu plus tôt peut-être. On va vous laisser quelques instants, parce qu'avec nous en studio, pour nous accompagner tout au long de cette édition spéciale, nous avons deux invités. Sylvère Henri Cissé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, président du club Sport et Démocratie et ambassadeur de Paris 2024. Une première réaction, évidemment, j'imagine que c'est la joie.
Ah, mais c'est une grande et une énorme joie. Vous savez, c'est comme le point à la fin d'une phrase, ou c'est la fin d'un chapitre, en attendant le chapitre suivant, qui est le comité d'organisation, qui, quant à lui, va prendre son essor à partir du début de l'année prochaine. C'est une énorme joie, parce qu'on partait vraiment de très très loin. Souvenez-vous, au début, en 2015, quand on s'est lancé, on s'est dit, waouh, Los Angeles, ça va être très compliqué. Rome est un sérieux candidat. Hambourg, que va-t-il se passer? Et finalement, eh bien, c'est Paris qui remporte 2024.
Ouais, et Paris a asséché la concurrence, quelque part? Un petit peu.
Ah, pour les Américains, c'est une victoire à la Pyrrhus, parce que le dossier français était vraiment excellent. Le dossier français était excellent, et l'équipe qui a mené ce dossier était vraiment une dream team. Vous savez, j'ai une image qui me vient à l'esprit. Quelque part, c'était un peu l'équipe qui a réalisé le premier épisode de La Guerre des Étoiles, Star Wars. Tout le monde était performant pour arriver à un chef-d'œuvre. Eh bien, quelque part, cette équipe qui a permis de réaliser le dossier de candidature était vraiment performante à chacun de ses postes. On était bon, on s'est débarrassé du complexe d'infériorité. Vous savez qu'on a, nous, les Français. C'est-à-dire, on se compare aux autres nations, on est toujours un peu en retrait. Et là, on a dit non, on va composer un dossier original avec une candidature originale. On en parlera peut-être d'ici quelques instants. Tenons compte de l'agenda 2020, du calendrier 2020 qui était imposé par le comité olympique, et on est parvenu à la victoire.
Quentin Moreno, vous êtes directeur pour l'Île-de-France de l'association Sport dans la Ville. Vous aussi, votre réaction après cette officialisation de l'attribution?
C'est beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Il y a une implication au cours de ces dernières années d'énormément d'acteurs de terrain pour pouvoir soutenir la candidature de Paris 2024. Et le succès de cette candidature, c'est évidemment le succès de la Dream Team qui a porté le projet de la candidature, mais c'est de manière plus générale le succès d'un rassemblement d'acteurs, que ce soit les acteurs publics, les acteurs associatifs, le monde sportif, qui s'est rassemblé autour du projet de Paris 2024. Et donc c'est une grande réussite, une grande satisfaction, et puis surtout beaucoup de rêves à venir pour Paris et pour la France.
Et pendant que l'attribution était officialisée à Lima, à Paris, les partisans de Paris 2024 étaient au Trocadéro, où nous retrouvons nos envoyés spéciaux Bertrand Éclair et Stéphane Lagarde. Alors, il pleut des cordes en ce moment sur Paris, Stéphane, mais la joie est quand même au rendez-vous.
Oui, eh ben vous n'allez pas le croire, mais effectivement une forêt de parapluies devant moi maintenant, Guillaume. Et on a beau dire qu'on sait depuis un moment que Paris aura ses Jeux, quand il y a quelques minutes, ils ont soulevé cette bâche sur ces anneaux olympiques, ben ça a mis un peu de couleur d'abord dans le ciel de Paris, parce qu'on est vraiment dans le gris là, hein, il pleut à torrent. Et quand cette tour Eiffel s'est allumée, c'était une grosse émotion. Des jeunes en blanc, qui étaient en t-shirt blanc, qui applaudissaient. Une vraie émotion aussi pour les supporters qui sont venus. Certains sont là depuis 3-4 heures, ils attendent sous la pluie, hein, et la pluie a déluge cet après-midi, dont le petit Bradley. Bradley, donc, qui est un jeune supporter qui est venu avec d'autres. Il y a aussi des relayeurs. Et donc, tout le monde attend maintenant les stars qui sont là. Alors, il y a Richard Dacoury, je crois qu'il y a le Cavalier, Pierre Legrand. J'ai pas toute la liste parce qu'on peut évidemment pas faire des listes. Il pleut encore une fois, même sur les cahiers des journalistes. Et donc, on est là avec nos parapluies. On est devant cette tour Eiffel. Et vraiment, il y a quand même une énorme émotion.
Vous avez une énorme liste de parapluies. Alors, on va écouter un petit peu des gens que vous avez pu rencontrer tout au long de l'après-midi. On écoute ça tout de suite.
On est là depuis 15h. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on est là. Alors c'est vrai qu'il y a quelques heures, on était très peu, on était 4. Mais voilà, non, c'est vraiment un pur bonheur.
Ça fait combien de temps qu'on attend ça?
Très longtemps, oui. Depuis l'année dernière, depuis que la candidature a vraiment été lancée, on attend ça.
Une émotion, mais moi qui reviens en enfance, puisque à l'école, on avait organisé toute une festivité pour Albertville, j'étais à Grenoble à l'époque. Cette passion date de 1992. 2016 et la validation des Jeux Olympiques 2024 est une très grande joie et une fierté aussi. On peut être très fier. Hein.
La fierté des supporters de la candidature Paris 2024, qui est donc non plus une candidature, mais une organisation maintenant. Stéphane Lagarde, la suite du programme, malgré la pluie, la fête ?
Oui, la fête, alors là, toujours relativement, parce qu'encore une fois, on peut pas s'abriter. À côté, il y a quand même le musée de l'Homme, hein, le fameux musée de l'Homme qui est à côté, avec qui abritera certains VIP. On peut pas tous rentrer. Mais une fois, ce que je trouve émouvant vraiment, Guillaume, c'est de voir ce public. Alors, ils sont pas nombreux. Je vais pas vous dire qu'il y a 10 000 personnes ici, mais il y a ces passionnés. Ils viennent de plus loin que l'Île-de-France. Hein. Il y a une Martiniquaise qui m'a parlé tout à l'heure. Voilà, on est ici devant cette Tour Eiffel et on se dit que bientôt, en 2024, il y aura ces épreuves au cœur de Paris. Et encore une fois, même si on le sait depuis longtemps, ça fait une énorme émotion. Écoutez par exemple ce que me disait ce vendeur de parapluies, justement encore une fois, mais qui est de vendeur de souvenirs devant la Tour Eiffel, là, qui témoignait tout à l'heure de son émotion aussi par rapport à ces jeux et qui les attendait depuis longtemps.
Bien sûr, évidemment, elle mérite Paris. Ça fait un siècle qu'ils n'ont pas eu ça, ça fait 100 ans, non ? On mérite les Jeux Olympiques. C'est une super belle ville, ville de lumière. On va accueillir tous les mondes entiers là ici, ça fait tellement y a plaisir. On vend tout, des porte-clés, des trucs, c'est pour faire y a plaisir aux gens qui vont venir pour les Jeux Olympiques. Pour l'économie, ça fait beaucoup d'argent, bah, j'espère. Hein.
Bon, pour l'instant, c'est pas les anneaux qui se vendent, c'est les parapluies, non ?
Ah oui, évidemment, là aujourd'hui, j'arrêtais pas de vendre des parapluies pour tous les journalistes qui sont là.
Voilà.
Stéphane... Il s'appelle Sami Dridri. Sami Dridri, ce monsieur, il les attend depuis très longtemps. Ces Jeux Olympiques, comme beaucoup ici.
Merci Stéphane. Mettez-vous à l'abri avec Bertrand Leclerc qui s'est chargé de la partie technique de ce reportage. C'est toujours un exploit dans des conditions météo pareilles. Silver Henri Cissé, ça va apporter quoi les Jeux à Paris ? D'ailleurs, on était là au Trocadéro, en face de la Tour Eiffel. Ce sera quoi ? Le beach volley qui sera là ?
Le beach volley au pied de la Tour Eiffel. Il y aura le tir à l'arc qui sera du côté des Invalides. Le marathon, les Champs-Élysées, le marathon de cyclisme sur les Champs-Élysées. Et nous aurons en fait des sites spectaculaires qui seront vus à travers le monde. Déjà, ça va apporter une formidable image de Paris à travers le monde. Vous savez, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, on peut le constater notamment avec le 100 mètres. Au moment du 100 mètres, c'est la moitié de la planète, même les trois quarts de la planète qui s'arrête.
Pendant 10 secondes.
Pendant 10 secondes. Et après, nous avons la moitié de la planète qui s'arrête pendant 2 semaines sur toutes les épreuves. Mmh. Et cette compétition porte bien son nom de trêve olympique. Et vous aurez les caméras du monde entier, les yeux du monde entier qui seront braqués sur Paris. Ensuite, il y a un impact économique sur la région, c'est-à-dire Paris, mais également la Seine-Saint-Denis, où sera basé le village olympique, le village des médias, la piscine que l'on va construire.
Enfin, il faut quand même le dire, depuis des dizaines d'années, il n'y a pas de piscine olympique à Paris, c'est un vrai scandale.
Vous remuez le couteau dans la plaie. Mais bon, ça y est, nous l'avons, ça y est, c'est fait, elle a été décidée, elle sera construite en Seine-Saint-Denis, ainsi qu'une aréna de 8000 places, là aussi c'est un autre problème qui a été résolu. C'est-à-dire que nous aurons une dynamique économique qui va apporter à peu près un impact de 10 milliards d'euros sur la région et 250 000 emplois qui seront générés grâce à l'avènement des Jeux Olympiques. Et après
250 000 emplois pour préparer les sites, pour une construction et voilà tout ça.
Exactement,
voilà.
Parce qu'il faut construire aussi tout simplement ce village olympique, mm-hmm. Le village des médias, il faut aménager la ville, il faut aménager le site, les sites et tout cela va nécessiter des emplois.
Quentin Moreno, donc là on parle d'impact économique global sur toute l'Île-de-France, sur Paris et sur la Seine-Saint-Denis. Pour le sport associatif, qu'est-ce que vous espérez de ces jeux, vous ?
Pour le sport associatif, ça va être une perspective, une dynamique. Ça va rassembler les énergies, ça va permettre d'avoir un éclairage, on va même dire un spot qui va se braquer sur le sport et sur le mouvement sportif de manière générale. La politique sportive ne fait pas partie des politiques toujours les plus soutenues par les États ou les collectivités.
C'est vrai, mais là, ça va être obligatoire.
Et voilà, et ça va devenir une politique prioritaire sur l'ensemble des territoires, et c'est une excellente nouvelle. Voilà. Donc, il va y avoir non seulement le soutien des politiques, il va avoir le soutien aussi de tout un ensemble d'acteurs économiques qui vont encourager la mise en place de cet événement et de toutes les actions qui vont être menées. Et puis, je pense qu'une dimension qui est importante, c'est que le succès de la candidature de Paris 2024, c'est effectivement des lieux exceptionnels, un projet sportif remarquable, mais c'est aussi tout un volet héritage qui est au cœur de la candidature de Paris 2024. Ça tenait à cœur au comité de la candidature de pouvoir mettre un héritage sociétal, un héritage environnemental, un héritage économique au cœur de la candidature. Et c'est l'ensemble de ces actions qui vont bénéficier à tous les acteurs du mouvement sportif.
Nous commettons tous un abus de langage, parce que ce sont les Jeux Olympiques, mais Paralympiques aussi, que l'on oublie.
Tout à fait.
Et cette,
ça va durer encore 15 jours derrière.
15 jours derrière, et cela va amener notre regard sur le monde handisport, sur le handicap, et également favoriser l'inclusion sociale. C'est très important de parler des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Absolument, et ça sera peut-être l'occasion d'améliorer l'accès aux handicapés dans les transports en commun parisiens. Je crois que c'était une des priorités du Comité International Olympique. On va retourner à Lima pour retrouver Christophe Diremzian. Rebonsoir Christophe.
Rebonsoir.
Quelle est l'origine de ce projet? Parce qu'il faut quand même le dire, il fallait être un petit peu gonflé pour y repartir au combat après avoir pris tant de coups.
Ben c'est exactement la question qu'on va poser à Kevin Bernardi. Kevin, on rappelle donc le traumatisme originel, on va dire, de Singapour en 2005. Paris qui perd de 4 voix, 54 voix contre 50 pour Londres. Évidemment, ça a créé un profond choc parce qu'on pensait effectivement qu'à ce moment-là, Paris allait avoir les Jeux. Vu le succès qu'ont eu en plus les Jeux à Londres en 2012, formidable succès sportif, deuxième nation je crois en termes de médailles, ça a donné évidemment des idées à Paris de se dire qu'il n'y avait pas de fatalité et qu'il fallait rebondir, et ça a donné un projet qu'il a fallu repenser dans les grandes largeurs.
C'est vrai, tout à fait. C'est vrai que la défaite en 2012, pour 2012, a été particulièrement forte pour Paris et pour le Comité Olympique Français. Et il y a eu aussi derrière la défaite d'Annecy pour les Jeux d'hiver de 2018, qui n'a pas facilité non plus la réflexion sur l'idée de repartir pour une candidature pour tenter d'obtenir les Jeux. Et finalement, dès 2011-2012, on a le Comité National Olympique qui met en place, avec à sa tête Bernard Lapassé, le Comité Français du Sport International, chargé de revoir comment promouvoir le sport à l'international. Et ça a été vraiment la rampe de lancement, si on peut dire, de cette ambition nouvelle pour obtenir au final les Jeux. Donc c'est qu'on est parti de là. Ensuite, progressivement, le Comité National Olympique a été pleinement mobilisé pour que les athlètes soient en avant et ne pas refaire les erreurs de la candidature, notamment 2012, qui avait été une candidature au final très politique.
Et justement, cet athlète, j'allais dire, que la France a trouvé, l'organisation a trouvé, c'est Tony Estanguet. C'était pas évident au départ pour lui, parce qu'il a jamais été un leader. Il avait terminé justement sa carrière en canoë en 2012. Il se trouvait pas, il s'imaginait pas forcément venir tout de suite prendre la destinée avec Bernard Lapassé d'une nouvelle aventure olympique. Comment ça s'est passé? Comment la réflexion s'est faite pour lui?
C'est vrai qu'il fallait trouver, aux yeux du Comité National Olympique Français et aux yeux des décideurs institutionnels, il fallait trouver un profil qui coche toutes les cases. Qui coche les cases du sportif, du leader potentiel au niveau charismatique, parce qu'il faut un certain charisme quand même pour incarner une candidature dans l'Hexagone, enfin dans le pays et évidemment à l'international. Et il s'est trouvé que Tony Estanguet, après la fin de sa carrière, est entré au CIO en tant que membre au sein de la commission des athlètes du CIO. Donc ça a été un accélérateur là aussi, avec en plus à ce moment-là l'appui derrière lui de Jean-Claude Killy, qui était encore membre du CIO, et évidemment de Guy Drut. Donc c'est qu'il a eu cet enseignement-là aussi de la part de ces deux membres qui étaient déjà là, et il a ensuite endossé les habits pour incarner la candidature avec Bernard Lapassé pendant toute la durée de la procédure, et depuis la visite de la commission d'évaluation en mai dernier, vraiment l'incarnation, la figure de proue de cette candidature et de main de l'organisation.
Au-delà de Tony Estanguet, quelle a été la réflexion qu'ont mené les membres du mouvement sportif français après cet échec? C'était de se dire qu'on avait été quoi? Trop arrogant pour 2012, qu'il y avait eu quelque chose qui n'avait pas fonctionné par rapport au CIO, une approche qui n'avait pas été la bonne, l'erreur de stratégie vis-à-vis du Comité International Olympique, et qu'il a fallu en fait inverser la tendance, ne pas dire ce qu'on allait faire au CIO, mais tout simplement attendre et voir ce que voulait, à ce qu'attendait le CIO par rapport à une candidature de Paris.
Oui, tout à fait. C'est vrai que 2012, il y avait eu une forme d'arrogance. On se souvient des propos, notamment à l'issue du vote du maire de Paris de l'époque, Bertrand Delanoë, qui avait un petit peu dénoncé l'attitude de Londres à plusieurs égards. Londres qui aurait à ce moment-là franchi la ligne jaune, etc. On se souvient de ces propos-là. Il y a eu également tout simplement le fait que le politique était bien trop présent par rapport à la sphère sportive. Et là, le Comité Olympique Français a vraiment voulu remettre les pendules à l'heure, si on peut dire, en mettant les sportifs en avant avec le politique qui suivait derrière. Et c'est que sur ça, la réflexion en plus a été d'autant plus facilitée, si on peut dire, par au départ le le scepticisme quand même de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui ne voulait pas forcément y aller parce qu'elle avait vécu en tant qu'adjointe de Bertrand Delanoë l'échec.
C'était pas dans les priorités de sa campagne pour l'élection municipale. Anne Hidalgo ne disait pas qu'elle voulait. Tout après, c'est prise au jeu, j'allais dire.
Tout à fait. C'est vrai qu'elle voulait vraiment des garanties. Et si on peut dire, les planètes se sont alignées dans le sens où le CIO, fin 2014, a adopté sa réforme de l'agenda 2020, dans lequel il parle de durabilité, donc d'utilisation des sites déjà existants, pas de nouvelles constructions si ce n'est pas nécessaire, qui parle également de réduction des coûts, coûts pour la candidature et pour l'organisation des Jeux. Donc ce sont des éléments comme ça qui ont permis à Anne Hidalgo d'être convaincue donc par ce discours du CIO et évidemment par l'implication de Bernard Lapassé, de Tony Estanguet, qui sont allés la voir pour la convaincre du bienfait pour la ville, pour le sport français, d'une telle candidature.
Alors l'évolution de cette candidature, on l'a vu, ça a été un maître mot qu'on a vu assez rapidement, un argument qu'ont toujours développé les partisans de Paris 2024, c'était de dire c'est 2024 ou rien. Est-ce que ça a un moment, c'est quoi ? C'était une fermeté, ça pouvait là aussi passer pour de la détermination, voire peut-être de l'arrogance vis-à-vis du CIO qui n'avait pas forcément envie d'entendre un discours ferme, aussi ferme, ou est-ce que c'est finalement une stratégie qui était mûrement réfléchie, de dire de ne pas se faire une fois de plus damer le pion par une candidature concurrente ?
Alors c'est vrai qu'il y avait cette idée-là de ne pas laisser échapper une quatrième fois les Jeux d'été, et quatrième fois même si on peut rajouter la candidature de Lille pour 2004, donc ça faisait cinq tentatives, donc c'était assez délicat pour Paris d'y aller, de se dire on y va mais on risque encore une fois de ne pas gagner. Donc c'est qu'en adoptant ce discours de dire c'est 2024 et si on ne les a pas on ne repart pas, ça a aussi été un curseur pour le CIO, de se dire si Paris ne retente pas, on se prive quand même d'une ville.
C'était vraiment une menace, j'allais dire. Si Paris voulait se retirer en disant si vous ne nous accordez pas 2024, en gros, on abandonne, le CIO a eu un petit peu peur face déjà à un certain nombre de candidatures qui se sortiraient pour des raisons financières ou politiques.
Ça, quand on voit qu'il y avait déjà eu pas mal de retraits de villes non négligeables sur la scène olympique, comme Rome par exemple, on se dit là, voilà, il y a quand même un problème et. Que ce soit Paris, que ce soit après aussi Los Angeles, qui a dit nous, si on n'a pas les Jeux, on n'aura peut-être aucune chance d'y retourner. Quand, par exemple, à Aarhus ou à Lausanne cette année, le maire de Los Angeles rappelait que sa ville avait été candidate 10 fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit l'investiture américaine ou carrément sur en tant que candidature olympique, c'est que ça pose aussi des questions pour le CIO de se dire. Voilà, il faut changer quelque chose, il faut modifier le processus pour faire au final 2 gagnants, 3 gagnants en incluant le CIO.
Merci Christophe, on reste avec vous. Simplement, il y a les réactions qui commencent à arriver. Emmanuel Macron, qui est aux Antilles, vous le savez, après le passage de l'ouragan Irma, a salué aujourd'hui l'attribution des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, voyant une formidable reconnaissance de la France et estimant que cette victoire, c'est la France. Silver Henri Cissé, ça a été dit par nos envoyés spéciaux et nos invités à Lima. Est-ce que, quelque part... C'est une preuve d'intelligence d'ailleurs, on apprend de ses erreurs et on a un peu regardé ce qu'avaient fait les Londoniens pour 2012 en mettant en avant des sportifs et puis dans le programme des épreuves on va voir, on avait beaucoup vu Londres au jeu de 2012 et ça sera un petit peu pareil à Paris. Est-ce qu'on a essayé d'être un petit peu d'être un petit peu humble pour y arriver?
Il y a eu deux aspects. Le premier, effectivement, il fallait apprendre de l'organisation de Londres 2012 qui était tout simplement parfaite et extraordinaire sur le plan sportif. Moi j'ai passé une dizaine de jours à Londres au moment des Jeux et c'était un moment exceptionnel.
C'est super, donc, il y avait une superbe ambiance.
Donc il y a eu plusieurs allers-retours où le comité de candidature a rencontré effectivement les personnalités qui ont œuvré à la magnificence de Londres 2012, ils ont appris, ils se sont enrichis. Et ensuite, il y a l'originalité de cette candidature, c'est-à-dire qu'on a une ville aujourd'hui, Paris, qui est assez ramassée, hein, avec quelque chose d'assez extraordinaire et unique. C'est-à-dire que, par exemple, on a un métro tous les 400 mètres, ce qui est quelque chose d'unique à travers le monde, qui permet
dans
donc, de faciliter
monde, oui,
les transports.
Unique, absolument.
Je vous ai parlé du côté spectaculaire des infrastructures. C'est un ensemble de choses, en fait. Il y a un maillage aussi des infrastructures sportives en région parisienne qui a permis de constituer un très bon dossier avec la Dream Team dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des gens d'une grande qualité, avec aussi des politiques qui ont su effacer leurs dissensions et enfin se marier et être allé de concert pour présenter une candidature, c'est un ensemble de choses qui a permis à cette candidature d'arriver à bon port et d'être excellente.
Eh bien, sachez que demain à 7h50 heure de Paris, François Hollande, qui est un petit peu à l'origine de la relance de cette candidature,
avec Valérie Fonéan, qui était ministre des Sports,
absolument, et qui avait un peu poussé Anne Hidalgo, on en parlait à l'instant, qui était pas forcément très très chaude pour repartir. Eh bien, il sera demain notre invité à 7h50 chez Frédéric Rivière. Tout le monde est content ce soir, mais vous savez, on est en France. Hein, il y a toujours des râleurs, toujours des gens qui doutent un petit peu de l'utilité d'avoir ces Jeux Olympiques. Est-ce que ça va coûter cher? Est-ce qu'il va y avoir des nuisances? Et surtout, cet aspect budgétaire, quelles vont être les retombées? Vous en parliez tout à l'heure, Sylvain Henri-Cissé. Elles sont optimistes, mais il y a eu aussi des exemples par le passé dans l'histoire des Jeux Olympiques qui étaient pas forcément, qui incitaient pas forcément à l'optimisme. Écoutez ce qu'a en dire Dominique Bayard. Elle va nous parler notamment des Jeux de Montréal.
Les plus optimistes parlent déjà de 250 000 emplois créés, de 10 milliards d'euros de recettes. Les pessimistes, eux, tablent sur 5 milliards d'euros seulement. Dans ce cas, la ville serait perdante car elle prévoit un budget de 6 milliards 600 millions d'euros. C'est relativement modeste par rapport au précédent. Tokyo, qui se prépare pour 2020, en est déjà à 13 milliards d'euros. Depuis l'effroyable fiasco financier de Montréal en 76, on sait que le sacre des Jeux tourne mal en général. Les Québécois ont payé l'addition olympique pendant 30 ans. Bien d'autres villes ont été éreintées par l'explosion des coûts. Barcelone, Athènes, Londres, Rio, Pékin. Pour éviter ce naufrage, la capitale française se limitera à la construction de deux nouveaux équipements seulement, une piscine et un village olympique à Saint-Denis, près du Grand Stade de France. Le village sera ultérieurement reconverti en appartements vendus aux particuliers. Seulement un cinquième de ces frais sont couverts par les collectivités publiques. Le comité olympique, la billetterie, les sponsors et les entreprises privées apporteront le reste. Par ailleurs, les organisateurs ont construit un budget sur une base prudente, prévoyant un taux de remplissage de 85%, alors qu'ils espèrent plutôt 95%. Reste des impondérables pas chiffrables à ce jour, comme le coût de la sécurité. Difficile d'évaluer la menace terroriste 7 ans à l'avance. L'autre inconnu relève de la faute caractérisée. Londres, par exemple, avait omis de prendre la TVA en compte dans son budget prévisionnel.
Voilà les informations de Dominique Bayard. On est presque au bout de cette édition spéciale et on va retourner à Lima pour retrouver Christophe Diremzian et conclure avec lui cette belle journée, cette belle soirée ici à Paris.
Absolument, pour poser la question à Kevin Bernardi, deux minutes pour nous expliquer ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Paris 2024, on sait, c'est dans 7 ans.
Une, Christophe.
Une seule. Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois en termes administratifs et pour la constitution de ce comité d'organisation, donc qui va être formé d'ici les 6 mois?
Donc, tout simplement, voilà, d'ici le mois de janvier, le comité d'organisation remplacera le comité de candidature. Il faut attendre évidemment quelques mois que tous les contrats se terminent, que toutes les factures soient réglées, pour ensuite avoir le comité d'organisation qui sera présidé par Tony Estanguet. Avec également la Solideo, l'infrastructure dédiée à la livraison des sites qui sera présidée par Anne Hidalgo. Donc voilà, ce seront les deux structures qui se mettront en place assez rapidement à partir de maintenant.
Voilà, on va retourner vers vous Guillaume pour la conclusion. On va évidemment recueillir dans les minutes qui viennent toutes les réactions des principaux acteurs du dossier, que ce soit Paris, Los Angeles, les dirigeants ainsi que les sportifs.
Merci à vous Christophe Diremzian, merci à votre invité Kevin Bernardi, merci à ceux qui étaient avec nous en studio, Sylvain Henri-Cissé et Quentin Moreno. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette édition spéciale. Lorenzo Dana qui était à la réalisation accompagné de Valentin Vaner, Frédéric Misselin à la rédaction en chef. Et puis on va en reparler de cette attribution des Jeux de 2024 à Paris. Édition spéciale dans 24 heures en France tout à l'heure à 10h30 heure de Paris avec Romain Ozoui et une autre demain matin à 8h10 avec Arnaud Pontus. À bientôt.